parle de l'Europe. Mais c'est sur la manière de faire cette Europe que l'on ne s'entend plus. C'est sur les principes essentiels que l'on s'oppose. Pourquoi croyez-vous, messieurs, que l'on demande au gouvernement de retirer son projet d'union douanière? Parce qu'il constitue une atteinte à la souveraineté nationale? Non, pas du tout. Simplement parce qu'un autre projet est prêt.
C'est faux!
Un projet qui vous sera présenté par le prochain gouvernement.
Monsieur le Président, je vous demande la permission de vous interrompre.
Ah non! Et ce projet, je peux d'avance vous en dénoncer le principe. La constitution de trusts horizontaux et verticaux et de groupes de pression qui maintiendront sous leur contrôle non seulement les produits du travail, mais les travailleurs eux-mêmes. On ne vous demandera plus, messieurs, de soutenir un ministère, mais d'appuyer un gigantesque conseil d'administration.
Henri Verneuil, inventant la figure du président en 1961 dans ce film, Le Président, avec la voix de Jean Gabin, contre une Europe de l'austérité, quelle alternative porter? On en parle avec notre invité Yanis Varoufakis, bête noire de Bruxelles pendant la crise grecque, économiste iconoclaste et engagé, auteur de Conversations entre adultes, récit d'une tentative de sauvetage de la Grèce, ou encore de Et les faibles subissent ce qu'ils doivent, chez Actes Sud, paru à l'automne dernier sur les causes profondes de la crise. L'ancien ministre des finances du gouvernement Tsipras continue à faire entendre sa voix, alors faut-il dire dissidente, dissonante, indépendante? En tout cas, il l'a fait entendre au sein du concert européen et tente aujourd'hui de rassembler à gauche en vue de des prochaines échéances. Les échéances européennes, ce sera au printemps prochain. Il sera à Paris ce soir pour présenter les grands axes de son programme commun et lancer son printemps européen, une liste transnationale à laquelle se rattacherait notamment le mouvement Génération de Benoît Hamon. Bonjour Yanis Varoufakis.
Bonsoir.
Bonsoir.
Et bonjour à votre voix française, Robert Wolfenstein. Vous vouliez peut-être répondre, bonjour Robert, sur cette question, bonjour. Dissidente, dissonante, indépendante.
You know, they say that today's orthodoxy.
Vous savez, on dit de nos jours que l'orthodoxie d'aujourd'hui, c'est l'hérésie d'hier, aussi bien en termes économiques que politiques. Et ça va dans les deux sens. Autrefois, bon, les positions néolibérales, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 60, avec Bretton Woods, vous aviez le consensus de Keynes, ils étaient au départ la norme, maintenant ils deviennent hétérodoxes. Mais ce qui compte, c'est que l'Europe d'aujourd'hui n'est pas tenable dans l'économie mondialisée, surtout après le grand choc de 2008. Et les politiques que nous proposons à travers notre liste transnationale n'ont qu'un seul objectif, qui est de réouvrir le débat, réouvrir la conversation pour y inclure tous les Européens, ce qu'on n'a jamais fait, c'est-à-dire considérer la crise européenne comme étant effectivement européenne.
Vous dites « once upon a time », il était une fois. Ce n'est pas un conte de fées ce que vous avez vécu en 2015, quand vous étiez ministre des Finances grecques à l'époque et que vous avez dû aller négocier pour une restructuration de la dette grecque. Vous avez dit « j'ai vu la face sombre de l'Union européenne, elle est terrifiante. Manque de démocratie au sein des institutions, mainmise de l'Eurogroupe, mépris des grands envers les petits, technocratie kafkaïenne, tout ça vous l'avez vu, vous l'avez raconté dans des livres, dans la presse. Comment expliquer que vous ne soyez pas devenu eurosceptique, que cette conversion ne se soit pas faite, que vous n'ayez pas contracté ce virus de l'europhobie, Yanis Varoufakis?
I grew up in a Greece.
Vous savez, moi j'ai grandi en Grèce sous la dictature fasciste et moi je suis devenu pratiquement anti-grec. Je me suis toujours battu contre le gouvernement grec parce que un patriote doit pouvoir se battre contre son gouvernement lorsque le gouvernement a tort. La même raison, je ne vais pas être europhobe ou eurosceptique. Le fait qu'il y ait une crise en Europe ne signifie pas qu'il faille devenir anti-européen. Au contraire, je suis encore plus attaché à l'idée de reconstruire l'Europe plutôt que la désintégrer.
Et alors pourquoi faudrait-il encore croire en l'Europe ?
Je veux dire, c'est à nous, Européens, d'avoir la foi. Moi, j'ai vécu quelques années au Texas. Vous savez l'importance du Texas pour les Européens ? Je vais vous dire. C'est là que je me suis rendu compte, en rencontrant des Norvégiens, des Français, des Lituaniens, des Allemands, que nous, Européens, nous sommes finalement très proches les uns des autres. On a beaucoup plus de choses en commun que nous avons de choses qui nous divisent. Je recommanderais à de nombreux Européens d'aller passer quelques mois au Texas pour se rendre compte qu'on est vraiment, avant tout, des Européens.
Qui sont vos adversaires politiques aujourd'hui, Yanis Varoufakis ? Est-ce que ce sont les europhiles, mais tenants de l'austérité, ou les populistes, partisans de la désintégration, comme vous dites ?
There's only one opponent.
Il n'y a qu'un seul adversaire, c'est la crise. C'est la crise qui a fragmenté l'Europe et qui a amené l'Europe à perdre son intégrité et renoncer à son âme, pour ainsi dire vendre son âme, qu'il s'agisse de migration, de xénophobie ou que sais-je. La tragédie qui est la nôtre, finalement, c'est quelque chose que nous avons déjà connu dans les années 30. Il y avait un effondrement financier à l'époque. Eh bien, en 2008, enfin, l'équivalent, c'était donc 1929. Et puis, il y a eu un establishment qui s'est mis en place et qui a mené finalement les mêmes politiques qui étaient vouées à l'échec, non seulement l'échec à travers l'austérité, 1931-1932, mais après cela, à mesure que cette dynamique acquise par ces échecs, tout cela a amené les fascistes, les nazis au pouvoir. Et c'est un petit peu la même chose qui se produit maintenant. Donc l'ennemi, c'est la crise. La crise qui est entretenue par ces deux complices, un établissement qui continue, qui persiste dans des politiques qui ont déjà prouvé leur inefficacité, et les xénophobes ou l'international des xénophobes qui justement se nourrit justement sur les échecs de l'établissement. Et ce qui est malheureux, c'est que ce sont véritables des complices parce que Bruxelles et Francfort ont besoin de Le Pen et de l'AFD pour avoir leur propre légitimité, et de leur côté, eux, ils ont besoin de l'établissement qui doit poursuivre ces politiques parce que c'est ce qui les fait vivre en quelque sorte, c'est leur fonds de commerce.
Donc vous avez échafaudé un plan, faut-il dire plan A, plan B, plan C, peu importe, une alternative, un New Deal vert européen qui est censé non pas répondre à cette crise, mais puisque la crise est aujourd'hui l'adversaire principal, est censé pouvoir le contrer. Comment ? En quoi consiste ce plan que vous avez bâti ensemble ?
We call it the European New Deal.
Nous, on appelle ça, la nouvelle donne, le New Deal européen. Ce véhicule transnational, cet instrument s'appellera le printemps européen, et ce sera notre plateforme pour les élections de 2019. Et pour répondre directement à votre question, il y a quatre crises au niveau économique qui doivent être menées de front. La dette publique, le niveau faible de l'investissement, la crise bancaire, l'insuffisance de l'investissement dans la technologie notamment, et puis la pauvreté qui persiste. Alors qu'est-ce que nous proposons donc dans ce New Deal ? Eh bien, ce sont des politiques qui pourront fonctionner dès demain matin, avant de changer quoi que ce soit aux règles, aux traités existants, aux chartes européennes et tout cela. Ce qu'on peut faire dès demain matin pour justement répondre, faire face à ces crises, il y a des mesures qui sont là et sur la base de la stabilisation que cela amènera et le nouvel espoir que cela apportera. Eh bien, dans l'horizon de, je sais pas, dans 2-3 ans, nous espérons pouvoir mettre en place une dynamique qui, d'ici à une dizaine d'années, permettra d'avoir un processus constitutionnel qui permettra aux Européens eux-mêmes de dire quel type de gouvernement démocratique ils veulent.
Une question d'Antoine Mercier.
Je n'ai pas compris ce que vous mettiez en place tout de suite, précisément.
Let me give you a very simple example.
Un simple exemple, si vous voulez. En tant qu'économiste, je vois qu'il faudrait dépenser 500 milliards d'euros chaque année dans toute la zone euro ou dans toute l'Union européenne sur l'union de l'énergie verte qui sera bonne pour l'environnement, qui créera des emplois et qui permettra de nous désenclaver de Vladimir Poutine et de Gazprom. Alors vous allez me demander d'où viendra l'argent. Ce ne sera pas l'impôt qui va lever une telle somme parce que les politiques budgétaires sont très limitées, mais il y a la Banque européenne d'investissement qui nous appartient à tous, qui pourra émettre des obligations chaque année, 500 milliards par an. Et la Banque centrale peut, par l'assouplissement quantitatif, souscrire à ces obligations, il y aura un tiers, enfin presque un milliard d'euros, 1,5 milliard d'euros chaque année qui pourront créer des emplois. Le ce qui pourra véritablement ce qui tue la démocratie, c'est l'absence d'espoir. C'est contre cela qu'il faut aller. Et ce qu'il faut, c'est apporter un nouvel enthousiasme au public, parce qu'effectivement, il y a des choses qu'on peut faire dès demain matin sans changer le moindre traité.
Et votre amie Angela Merkel va être d'accord? Comment ça se passe politiquement, votre système de changement de cap par rapport à l'austérité?
Isn't it terrible that
Mais c'est quand même terrible que ce qui paraît logique et efficace soit difficile à accepter sur le plan politique. Angela Merkel, alors en fait, je l'aime bien personnellement, nous, les Grecs, quand elle partira, elle nous manquera, mais enfin quand même. C'était la chancelière de fer, c'était la femme politique la plus puissante d'Europe, et elle a gaspiller ce capital politique en ne faisant rien, en veillant à ce que rien ne se fasse, qu'on reste dans le statu quo, et son autorité dans son propre parti a diminué à tel point que même si elle était d'accord avec nous, supposé qu'elle soit autour de la table et qu'elle soit d'accord, elle ne pourrait rien faire parce qu'elle a perdu son capital politique. C'est ce qui se passe lorsque le statu quo, le business as usual, est mis en place, alors qu'il n'est pas tenable en raison de la fragmentation et des changements qui sont déjà en place.
Alors, vous avez été la bête noire de Bruxelles dans ces années de crise grecque. Vous avez aussi vos têtes de Turc, et notamment Wolfgang Schäuble, dont vous avez dénoncé à nombreuses reprises sa vision liquidationniste de l'Europe. Aujourd'hui, qui sont vos amis, qui sont vos ennemis? C'est un peu la question qu'on se pose ensemble. Vous avez évoqué ce programme commun, ce mouvement que vous cherchez à créer en Europe. Vous êtes allé, ou votre tournée européenne va vous amener en Italie. Avec qui vous discuterez là-bas, par exemple?
Alors, si je puis me permettre de vous corriger, moi j'aime bien Wolfgang Schäuble, c'est pas ma bête noire, on n'est peut-être pas amis, mais nous avons eu des échanges très francs, très ouverts, et j'ai respecté ses positions. J'étais pas d'accord, mais j'ai respecté ses points de vue. Ceux qui sont, à mon sens, responsables de l'état de l'Europe aujourd'hui, c'est pas des gens comme Schäuble, mais des gens comme Sapin et Moscovici, qui eux étaient un peu hypocrites. Ils disaient une chose devant vous, et puis ils faisaient dans votre dos des choses entièrement différentes. Des choses auxquelles ils ne croyaient pas eux-mêmes, mais ils les faisaient quand même dans votre dos. Alors, je vais être clair là-dessus.
Et Emmanuel Macron, dont vous avez dit énormément de bien à cette période?
C'est vrai, j'ai dit du bien parce qu'il le méritait. C'était quelqu'un qui appuyait une partie de mes démarches, mais certains de mes collègues m'ont dit, oui, enfin, il te soutient parce qu'il ne fait pas partie de l'Eurogroupe. Il n'était pas ministre des Finances, il était ministre de l'Économie. Et donc là, bon, je ne peux pas vérifier ce qu'il en est. C'est vrai que je suis déçu par ce qu'il fait depuis qu'il est devenu président, mais appelons un chat, disons, je reconnais ce qu'il a fait. Pour revenir à votre question quand même, nos alliés, donc nos amis, c'est qui? Ce sont des gens de bon sens, des gens rationnels qui ont renoncé à la politique parce qu'ils ont vu que le processus politique est une source de problèmes et non pas de solutions. Ça, ce sont les gens que nous devons convaincre afin de mettre fin à cette dégringolade de l'Europe vers la désintégration et la perte de son âme et de son intégrité.
Donc vous allez aller en Italie, donc vous allez aller en Espagne, deux pays où la situation est renouvelée par le biais des urnes notamment. Et vous allez discuter avec qui?
Tous ceux qui voudront parler avec nous, nous sommes ouverts, nous parlerons à tous ceux qui le souhaitent. Mais je vais quand même faire une précision. C'est vrai, nous irons en Espagne, en Italie, enfin moi là je viens à l'instant de Grèce, mais ce qui est essentiel, c'est également d'aller en Allemagne, parce que ce fossé entre l'Allemagne et le reste de l'Europe, entre le Nord et le Sud, cette division fait partie du problème. Il ne faut pas penser en ces termes de Est contre Ouest ou Sud contre Nord, il faut se dire que tous ceux qui voient le problème comme un problème commun doivent pouvoir s'asseoir autour d'une table. Vous avez ceux qui veulent intégrer et puis seuls ceux qui veulent montrer du doigt tous les autres. C'est ça le vrai problème. Le printemps européen, dans tous les pays d'Europe, travaillera dur, qu'il soit un pays du Nord ou du Sud, que ce soit un pays excédentaire ou déficitaire.
Alors aujourd'hui, vous êtes en France. Vous allez notamment ce soir retrouver Benoît Hamon et les représentants de son mouvement Génération, avec qui vous pourriez faire programme commun. commun. Lui, il a raillé le fétichisme allemand pour l'équilibre budgétaire qu'il impose. Il a plaidé pour un budget plus fort au cœur de la zone euro. Il a appelé à sortir l'Europe de la glaciation dans laquelle elle s'est mise et de la rendre au peuple. On loue un peu partout son volontarisme européen et sa modernité, son envie de démocratiser l'Union. Mais concrètement, on n'arrive pas à savoir si vous êtes prêt à un rapprochement avec l'exécutif français aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez que le programme européen d'Emmanuel Macron est attaquable ou est-ce qu'il y a des points de convergence entre votre programme commun et le sien ?
Il faut quand même voir que depuis ce matin et toute la soirée, enfin c'est pas que ce soir, on travaille ensemble parce que le printemps européen met effectivement l'accent sur le travail, hein, que d'arriver à des solutions qui tiennent la route sur le plan technique. Et effectivement, vous pourrez bientôt lire notre programme, un New Deal pour l'Europe, c'est quelque chose de très détaillé. C'est pas simplement avec Benoît Hamon, mais avec bien d'autres que nous travaillons sur ce projet. Alors, pour en revenir à Macron, ses propositions de réforme de l'infrastructure financière et économique de l'Europe allaient essentiellement dans le bon sens. C'était, à mon sens, trop peu, trop limité. Même si Berlin avait accepté ces mesures, elles n'auraient pas suffi pour stabiliser l'Europe, mais elles allaient dans le bon sens. Mais permettez-moi de vous dire, malheureusement, qu'elles sont restées lettres mortes. Enfin, elles ont été descendues en flammes par Berlin, puisqu'il y a 4 jours, Angela Merkel, il y a 4 jours, a descendu en flammes chacune des 4 propositions de Macron sur, par exemple, une assurance chômage commune, un système d'investissement qui ne soit pas financé uniquement par l'impôt, un système d'assurance des dépôts auprès des banques. Enfin, tout cela a été enterré par Macron, y compris d'ailleurs un système de vote plus démocratique au sein du Parlement européen. Hein. Et donc, les velléités de réforme de M. Macron ne pourront pas exister, et pour une simple raison, parce que Madame Merkel ne peut rien imposer à son propre gouvernement, à moins que, de son côté, le gouvernement français adopte la stratégie du général de Gaulle de dire, voilà, il y a un minimum à faire, un minimum indispensable, et si ce minimum n'est pas fait, eh bien, moi, je pratiquerai la politique de la chaise vide.
Mais donc,
M. Macron ne l'a pas fait, et donc maintenant, il n'est...
Mais vous en tirez quelle leçon qu'il faut aujourd'hui, dans votre programme commun, rédiger des propositions dont on sera sûr qu'elles seront acceptées par Berlin ?
Yes, we should.
Ben oui, et c'est ce qu'il faudrait faire. Mais le problème, c'est que Berlin n'accepterait pas les réformes indispensables sans en contrepartie, sans qu'il y ait un ultimatum venant du reste de l'Europe. Il faut lui forcer la main, parce qu'on ne peut pas d'un côté célébrer ses excédents commerciaux tout en critiquant les autres pour leur déficit. C'est de la mathématique toute simple, ça.
Antoine.
Oui, on a l'impression que vous restez un petit peu dans les questions institutionnelles, alors que votre ennemi en Europe, c'est tout de même les politiques d'austérité qui sont conduites globalement, notamment par la Commission. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer de modifier ce cap politique plutôt que de vouloir essayer de trouver des aménagements institutionnels qui, qu'on voit bien, qui ne sont pas possibles à mettre en place ?
Well, we don't focus on institutions.
On ne se focalise pas uniquement sur les arrangements institutionnels, puisque le programme que nous mettons en avant, et je vais vous donner un exemple précisément, la Banque européenne d'investissement qui financerait plutôt des programmes d'investissement vert, tout cela peut se faire dans le cadre institutionnel actuel. Ce qui est essentiel, ce qui est important, c'est de combiner les propositions de politique, sans avoir à s'appuyer sur des changements institutionnels, parce que dès que, par exemple, la France est désignée, par exemple, voilà, on va sauver l'Europe en changeant la charte européenne, en changeant les règles, il va se créer un tel tollé que ça prendrait des années pour arriver où que ce soit. Donc, ce qui est essentiel, c'est d'avoir en place des politiques qui peuvent être appliquées dès demain matin dans le cadre existant, avec des propositions à plus moyen terme de changements institutionnels. C'est ça que nous faisons.
Pour la Grèce, quand même, parce qu'il faut le dire, la Grèce, on dit que la situation s'est améliorée, qu'elle va retourner peut-être sur le marché. Est-ce que votre critique n'est pas là prise à défaut, finalement, puisqu'on voit quand même que ce qu'a fait M. Tsipras depuis quelques années, c'est de remettre la Grèce dans le bain commun du marché, pour le moins.
Vous n'êtes pas économiste.
Non, je le reconnais.
Vous savez ce que c'est que de retourner au marché, sur les marchés? Ça veut dire emprunter. Ça veut dire emprunter auprès des banques privées. Si vous êtes en état de faillite, vous n'avez pas le droit d'emprunter. Donc pour retourner au marché en tant qu'État qui a fait faillite, c'est un crime contre la logique, puisque ce serait un crime contre le peuple grec et contre l'Europe. Pourquoi ? Parce que tout ce que cela ferait en retournant sur le marché, c'est reporter plus loin encore cette crise. La Grèce n'est pas indépendante, elle ne s'améliore pas. Ce qui s'améliore, c'est le pouvoir des spéculateurs qui achètent les rares obligations d'État en marché, parce que la Banque européenne est derrière eux. Ça, c'est une tragédie aussi bien pour le peuple grec, et je dirais tout simplement, nous avons une blessure en Europe, en Grèce, c'est une blessure béante qui s'infecte. Il y a des milliers de gens qui s'exilent, qui quittent la Grèce, qui devient un vrai désert, et on appelle ça un succès parce que la Grèce est devenue un désert. L'Europe, parce qu'elle n'a pas su résoudre la crise grecque, a dit aux Français, aux Allemands, aux Italiens qu'il n'y a pas de projet pour réparer l'Europe, alors que ce problème pourrait se réparer. Pourquoi on ne répare pas l'Europe? Parce que Paris et Berlin sont en guerre et n'ont pas entre eux décidé du sort de l'Europe.
Donc vous qui êtes docteur S économie, votre diagnostic, c'est qu'après cette cure d'austérité, la Grèce ne va pas vraiment mieux, même si elle est en train de sortir de la récession. Et alors que le troisième plan d'aide internationale à la Grèce va se terminer cet été, la reprise reste très fragile, c'est ça ? La Grèce reste un pays peut-être condamné à long terme ?
Mais il n'y a pas de reprise. Il n'y a pas de reprise. Il y a de reprise nulle part, sauf pour quelques spéculateurs et vautours. On a perdu un quart de notre revenu. Nous avons perdu 1 million de citoyens. Une famille sur deux se trouve au chômage intégral dans une telle situation. Vous avez une croissance de 1%, ce n'est pas de la croissance. Surtout quand ce qui fait la croissance, c'est uniquement le revenu de la classe supérieure, de ceux qui sont déjà très riches. Et puisque on parle en termes médicaux, tout ce qui se passe ici, nous avons un malade atteint du cancer qui meurt lentement et nous lui donnons de la cortisone. Et alors, c'est vrai que la cortisone vous donne une apparence un peu meilleure, mais la tumeur continue son travail sordide.
Qu'est-ce que vous dites de l'Italie ? Est-ce qu'elle risque de devenir la nouvelle Grèce ? Est-ce qu'il risque d'y avoir une nouvelle crise selon vous ? Vous qui connaissez bien le fonctionnement de l'Europe.
Pour
l'Italie, je parle de l'Italie en tant que le nouveau gouvernement italien et ses positions précisément qui risquent de s'opposer aussi et d'être en contradiction avec la politique européenne.
Ça, c'est une question du sens de la relation de causalité. On ne va pas avoir une crise en Italie en raison de ce gouvernement. Ce gouvernement est là à cause de la Grèce. C'est dans l'autre sens que ça se passe. L'économie italienne ne peut pas se maintenir dans la zone euro. Réfléchissez-y. Pendant 20 ans, le revenu par habitant moyen n'a connu qu'une chute continue. Pendant 20 ans, le revenu a baissé. Les politiques ont échoué et le peuple italien a tourné son dos à l'établissement italien, justement par colère, par désespoir, comme dans les années 30 en Allemagne. Ils sont tournés vers les racistes ou les xénophobes. Pourquoi ? Parce que, à raison justement de l'échec de l'économie européenne qui n'a pas pu apporter l'espoir ou la prospérité ou les perspectives à l'Italie. Alors, ce qui est bien, c'est que l'Italie ne va pas être la nouvelle Grèce. Pourquoi ? Parce que l'Italie est trop grande. On ne peut pas la bousculer comme ça. Il y a 2,6 milliards d'euros de dette. Vous avez un système bancaire qui pratiquement a coulé, qui ne peut pas se maintenir. Et si ce pays quittait la zone euro, la France devrait quitter la zone euro. Donc il n'y aurait plus d'eurozone du tout. De zone euro. Donc la seule bonne nouvelle, c'est que la crise est tellement grave que l'Europe est obligée, de choisir entre la consolidation, l'unification et la désagrégation.
Ancien ministre des Finances grec, économiste Yanis Varoufakis, est-ce que je dis candidat aussi aujourd'hui ? Candidat aux prochaines élections européennes ?
Alors ça, ce sera nos membres qui en décideront. Il y aura une élection primaire dans toute l'Europe pour savoir qui représentera la liste et où. À titre personnel, j'ai pas envie. Parce que je voulais jamais être ministre, je n'ai jamais voulu être député, j'ai toujours voulu lire, écrire et enseigner. Mais la crise est tellement profonde qu'à un moment donné, il y a un devoir moral d'intervenir. C'est une corvée, enfin, c'est une obligation. C'est comme vider les poubelles le soir, il faut que quelqu'un le fasse. C'est un travail pas très agréable, mais quelqu'un doit le faire. J'aimerais bien que quelqu'un d'autre le fasse pour que je puisse ensuite rentrer chez moi et faire ce que j'aime faire. Et je peux vous assurer que ce n'est pas de la politique électorale.
Vous êtes prêt à faire don de votre personne, alors, du coup, pour retourner dans l'arène politique. C'est beau ce dévouement.
Vous savez, nos amis sceptiques vous disent, voilà, ça c'est un politicien qui parle. Mais je peux vous dire qu'en 2015, c'était vraiment pas drôle d'être là où j'étais. Ce n'était pas un travail agréable. Cela étant, notre peuple connaissait une dépression terrible et le fascisme était au coin de la rue.
En 2015, il y avait votre lettre de démission toujours dans votre poche. Vous étiez prêt à la dégainer et à la sortir. C'est ce que vous avez raconté. Aujourd'hui, il y a quoi dans vos poches ?
J'ai pas de démission parce que je n'occupe pas de poste. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que si on me proposait un autre poste, la première chose que je ferais, c'est d'écrire une nouvelle lettre de démission que je mettrais soigneusement dans ma poche.
L'idée, c'est quand même de faire des listes pour ces élections européennes dans tous les pays qui suivent, en gros, le programme que vous êtes en train de définir. C'est ça, pour déjà au Parlement européen exister en tant que groupe et peser sur le débat.
Absolument, c'est ce que nous allons faire. La chose principale pour insuffler une nouvelle énergie à ceux qui sont dégoûtés par, disons, le style de politique à l'ancienne, assez écœurant, permettre à d'autres gens de venir, d'apporter un nouveau souffle à la vie démocratique en Europe.
Je reviens à ma présentation. Enfin, je retente de refaire le film maintenant que la présentation est presque complète. Yannis Varoufakis est notre invité jusqu'à 13h30, ancien ministre grec des Finances, économiste, auteur de « Et les faibles subissent ce qu'ils doivent » chez Actes Sud et peut-être l'an prochain candidat aux européennes. 13h23 sur France Culture.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
J'aimerais bien qu'on en revienne, Yannis Varoufakis, à la question des institutions et à la question de la démocratie européenne. Emmanuel Macron assume l'idée d'une Europe à plusieurs vitesses. L'Europe qui gagne et l'Europe périphérique. La Grèce serait hors-jeu dans un cas comme celui-ci. L'idée d'un programme commun, est-ce qu'elle va contre cette idée d'Europe à plusieurs vitesses ? Est-ce que c'est une manière aussi pour vous de remettre de l'horizontalité ?
Absolument.
Effectivement, j'irai à l'encontre de cette idée d'une Europe à plusieurs vitesses. Pourquoi ? Parce que ce récit, ce discours d'une Europe à plusieurs vitesses, c'est finalement le drapeau blanc de la capitulation de l'idée européenne. En effet, qu'est-ce que cela veut dire d'avoir finalement une Europe à plusieurs vitesses ? Cela veut dire que l'on dit aux Polonais qu'ils peuvent évoluer dans un système patriarcal. Antiféministes, dire qu'aux Grecs qu'ils sont carrément en marge, dans un état de dépression permanente. On peut dire aux Français qu'ils se trouveront dans un état d'austérité permanente pour la majorité avec un socialisme pour une minorité. Mais ça, ce ne sont pas des récits positifs, ce n'est pas le genre de discours qui peut inspirer l'unité dont nous avons besoin et amener ce que nous voulons, le démos européen. Il faut retrouver le démos, le peuple, dans la démocratie. En Europe, on n'y arrivera pas par la division, par la nouvelle diversification, une nouvelle fragmentation. Donc, nous n'allons pas accepter ce drapeau blanc d'Emmanuel Macron de l'Europe à plusieurs vitesses. Alors, nous allons essayer, peut-être pas réussir, mais ce que nous allons essayer de faire, c'est de proposer un récit unificateur. C'est le seul antidote au nationalisme extrême.
Mais en parallèle, l'un de vos partenaires, Benoît Hamon, qui appuie le projet traité Thomas Piketty, dit démocratisation de l'Europe, ce TEDEM, lui ne concernerait au départ en tout cas que les pays de la zone euro et s'appuierait sur une Europe à deux vitesses, dans un premier temps, au moins pour répondre à l'urgence démocratique sur ce point-là. Comment vous mettre d'accord ?
Voilà,
je vais vous dire que Benoît Hamon est encore en cours de développement dans le cadre du printemps européen. C'est un vrai dialogue. Le New Deal européen que nous proposons est très clair là-dessus. C'est un projet qui concernera pas simplement les pays de la zone euro, mais tous les pays de l'Union européenne qui ne sont pas dans la zone euro et les pays européens qui ne font pas encore partie de l'Union européenne. Ce que nous disons, c'est qu'il y a une politique, un cadre politique qui s'appliquera à tous les pays européens, y compris d'ailleurs le Royaume-Uni qui malheureusement aura quitté notre famille, mais pour des pays tels que la Suisse ou la Serbie. Et ce que je crois, c'est ce qu'apportera le printemps européen à la conversation, c'est-à-dire la capacité de se rencontrer avec des hommes politiques nationaux comme Benoît Hamon et créer un nouvel agenda européen.
Et quid de l'euro?
Alors, l'euro est une, sur le plan conceptuel, est une véritable catastrophe. C'est comme s'il avait été conçu pour échouer. Moi, j'ai toujours été contre. Pas contre l'idée d'une monnaie unique, comprenez bien, mais cette monnaie unique-là, parce qu'elle était catastrophique. On a créé une banque centrale sans État. Qui est là au service de 19 gouvernements qui n'avaient pas de banque centrale. Alors, même un gamin de 8 ans pourra comprendre que ça ne peut pas tenir la route. Le problème se pose en ces termes-ci, et c'est là que je ne suis pas d'accord avec nombre de mes camarades et collègues, dont Jean-Luc Mélenchon et d'autres. C'est que c'est une chose de dire on n'aurait pas dû créer l'euro, c'en est une autre que de dire il faut désintégrer l'euro, parce que là où on en est maintenant, l'intégration coûterait encore plus cher. Alors, elle sera peut-être nécessaire, je ne dis pas, parce que nos populations en souffrent terriblement. Mais en tant que printemps européen, ce que nous proposons, c'est des politiques pour réparer l'euro tout en se préparant à son éventuelle désintégration.
Vous êtes grec et économiste, Yanis Varoufakis. Nous, en France, nous avons des philosophes. Pour terminer cette émission, je voulais vous faire écouter la voix d'Étienne Balibar sur la question de la démocratisation des institutions européennes et vous demander une courte réaction.
Il faut arriver à surmonter un préjugé extraordinairement tenace, dont les effets sont très délétères dans toutes ces discussions. Il y a beaucoup à voir, évidemment, avec une conception elle-même terriblement étatiste ou souverainiste de la souveraineté, qui est le préjugé suivant lequel, si on met plus de démocratie, si on injecte plus de démocratie au niveau des institutions fédérales ou quasi-fédérales, on va en enlever au niveau national. Et inversement, le moyen de résister à la dédémocratisation dont l'Europe est le vecteur, c'est de concentrer, au fond, l'effort de démocratisation sur le national. Et bon, alors moi je pense qu'on a observé depuis plusieurs décennies, à travers les vicissitudes, etc., c'est pas un transfert des éléments démocratiques d'un niveau vers l'autre, c'est une espèce de dégénérescence corrélative, si vous voulez, ou mutuelle, de la démocratie aux deux niveaux. Et par conséquent, je pense que ce pour quoi il faut se battre, vous direz avec quelle force d'abord celle de la discussion, du discours, pour ne pas dire de la pensée, c'est une relance de l'idée démocratique dans toutes les significations, participation, représentation, bien sûr, et surtout lutte, conflictualité, conflit, etc., à tous les niveaux, et non pas de façon exclusive au niveau européen ou, inversement, au niveau national. Donc, il faut sortir de cette alternative à la fois abstraite et obsédante, je dirais, qui veut que on soit ou bien fédéraliste post-national ou bien souverainiste national.
Voilà cette alternative fédéraliste-souverainiste. Yanis Varoufakis, que faire pour relancer l'idée démocratique?
Si je puis me permettre, je dirais quand même d'abord que je suis d'accord avec chaque mot qui a été prononcé ici par Étienne. Enfin, ça n'est pas un hasard parce qu'Étienne Balibar est très proche de notre mouvement puisqu'il est membre du comité consultatif de notre mouvement. Donc, en fait, il ne fait que répéter son récit que je trouve très beau, mais répéter notre argument qui est tout simple, à savoir que pour relancer la démocratie au niveau municipal, au niveau régional, au niveau national, il faut le relancer au niveau européen.
Merci beaucoup Yanis Varoufakis. Et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Comment l'Europe de l'austérité menace la stabilité du monde, apparu chez Actes Sud, à retrouver dans la collection Babel Essai, conversation entre adultes, a été édité par Les Liens qui Libèrent. Un grand merci à votre traducteur Robert Wolfenstein. À vous signaler juste Loge, où se logent les mauvaises herbes, ce que nous devons à la ZAD, un ouvrage coordonné par Jade Lingard, aux Liens qui Libèrent aussi, sera présenté ce soir à Paris, dans le 20e, au lieu dit, avec les grandes voix qui ont posé cet ouvrage, Alain Damasio, Virginie Despentes, David Graber, Bruno Latour, Vandana Shiva et bien d'autres. Vous vous retrouverez donc et on aura des échos de cette rencontre qui aura lieu ici à Paris avec Benoît Hamon et d'autres responsables politiques français. Quant à vous, Yanis Varoufakis, un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table que je retrouverai avec grand plaisir lundi à la réalisation aujourd'hui Perret Legras avec Anthony Thomasson. Quand une Grande Table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez retrouver toutes les informations en lien avec l'émission. Pour l'heure, il est 13h31 sur France Culture.